Il est 18h30 ici à Paris. Bonsoir à tous. Dans 30 minutes, c'est RFI Soir. Au programme ce jeudi, l'initiative des peuples autochtones du Cerrado actuellement à Bruxelles. Leur région qui occupe un quart du Brésil est menacée par l'agro-business qui dangereusement progresse. Notre dossier ensuite consacré à la guerre à Gaza. Alors que l'espoir d'un cessez-le-feu ne se concrétise toujours pas, on évoquera le sort des prisonniers palestiniens qui sont soumis à de la torture. C'est ce qu'affirment les ONG dans les geôles israéliennes. Et puis avec notre envoyé spécial permanent à Jérusalem, nous parlerons du phénomène de la criminalité qui s'intensifie à Gaza avec la guerre. Les gangs sèment le chaos. Question d'environnement, les conséquences de la vague de chaleur sur les végétaux. 19h30 dans une heure, Afrique Soir, la première édition, ce sera avec Sylvie Berruet. Mais pour le moment, l'heure est au débat sur RFI.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et on parle ce soir intelligence artificielle. Pour la première fois, ce soir, une résolution appelant à la mise en place de normes internationales dans le domaine de l'IA a été adoptée, donc c'était ce jeudi, lors de l'Assemblée générale de l'ONU. La question de la régulation de ces technologies du futur agite le débat public à mesure qu'avance, à mesure que se développe au pas de charge l'intelligence artificielle. La semaine dernière, ainsi, le Parlement européen a adopté la première législation au monde en la matière. Notre question ce soir, est-ce que réguler l'intelligence artificielle, c'est limiter son développement? Est-ce qu'il faut accepter de ne pas totalement encadrer l'évolution de l'IA, comme cela peut se faire par exemple chez les leaders de l'intelligence artificielle, États-Unis ou Chine? Ou bien régulation et innovation peuvent aller de pair dans cet enjeu si important? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Nicolas Sabouret, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de la Graduate School Informatique et Sciences du Numérique à l'Université Paris-Saclay, enseignant à Centrale Supélec et vous êtes chercheur en IA, auteur de plusieurs ouvrages sur l'intelligence artificielle. Je vais citer « L'intelligence artificielle n'est pas une question technologique ». Face à vous, Georges Naon, bonsoir.
Bonsoir.
Expert des technologies numériques, ancien directeur du Centre d'innovation d'Orange Silicon Valley à San Francisco, poste que vous avez occupé pendant 15 ans, conférencier puis co-auteur du livre « Le village numérique mondial, la deuxième vie des réseaux ». Sandro Gozzi, bonsoir.
Bonsoir.
Notre troisième invité en ligne avec nous, député européen Renew Europe, secrétaire général du Parti démocrate européen. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors d'abord, je voudrais vous faire réagir à cette loi donc, qui a été adoptée mercredi dernier par les eurodéputés, première législation au monde en la matière, je te disais. Cette loi qui prévoit que désormais les grands groupes d'Internet soient sommés d'expliquer comment ils limitent les risques afin que l'IA reste dans les clous de la législation. Les risques sont classés de faibles à inacceptables. On va commencer avec vous, Nicolas Sabouret. Vous portez quel regard sur ce texte? Parce que l'adoption a fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'effectivement, c'est révolutionnaire? C'est un changement d'ampleur, selon vous?
Je ne sais pas si c'est révolutionnaire, mais je pense que c'était nécessaire.
Ouais.
Alors, c'est facile à dire, je suis côté recherche, donc je ne fais pas partie des grands groupes de la tech. Mais je pense que c'est nécessaire de poser quelques règles sur les usages de l'intelligence artificielle. On a trop souvent tendance à considérer que l'intelligence artificielle était un problème d'informaticien, de mathématicien, de technologue. Et en fait, on oublie que l'essentiel des questions qu'elle pose à la société sont des questions d'usage. Et je pense que l'AI Act du Parlement européen est justement une réglementation qui va dans le sens de l'encadrement des usages, ce qui me paraît assez sain.
Parce que jusque-là, c'est une question qui ne se posait pas, l'encadrement des usages de l'IA.
L'usage des technologies numériques était assez peu encadré en dehors, à ma connaissance, de la loi des usages normaux. Et tout simplement parce qu'il y avait, je pense, de la part des législateurs, une mauvaise compréhension de ce qui pouvait être spécifique dans le numérique, et pas uniquement dans l'IA. Et donc dans le fait que les technologies numériques, enfin toutes les technologies de l'information et de la communication, apportent en elles-mêmes des éléments de transformation pour la société qui ne sont pas d'ordre physique. Hein, on a vu des transformations après le Covid avec le développement du télétravail, on a vu des transformations dans la manière dont on se déplace avec aujourd'hui des assistants de navigation dans toutes les voitures. Et en fait, ces choses-là ne donnent pas l'impression qu'elles transforment la société, alors que de fait, elles le font.
Oui, c'est une sorte de révolution sourde, l'intelligence artificielle.
Assez silencieuse. Oui,
ouais, assez silencieuse. Georges Naon, votre regard, vous, sur cette loi?
Je trouve que c'est très utile et dans le développement de toutes les technologies, on a vu le besoin et personne n'a jamais contesté l'intérêt d'avoir des encadrements, des réglementations plutôt que des régulations d'ailleurs. Et là, ça n'échappe pas à cette espèce de loi du genre, hein, organique en fait. Hein, plus on invente, plus il faut faire attention, encadrer. Le risque là, c'est peut-être le contexte dans lequel cette loi a été finalement définie. On sent qu'il y a quand même un caractère d'urgence qui est un peu inquiétant dans le sens où ça fait des années que les réglementeurs travaillent à l'IA de façon générale et il y a eu cette surprise pour tout le monde, y compris pour les réglementeurs, de l'arrivée de l'intelligence artificielle générative qui a pris tout le monde de court et donc tout le monde s'est senti entre guillemets obligé d'aller très vite.
Un mot pour la définir, cette intelligence artificielle générative pour nos auditeurs.
Alors, dans le vocabulaire général, c'est ChatGPT ou ChatGPT en français, qui a été cette façon de pouvoir interagir pour tout le monde. C'était la première fois que le monde entier, n'importe qui dans le monde entier, pouvait interagir avec la puissance de l'intelligence artificielle, qui était auparavant, entre guillemets, cantonnée ou réservée à la recherche ou dans des entreprises qui le déployaient, parce qu'il était quand même très, très bien déployé dans les entreprises. Avant l'arrivée il y a un an de cette intelligence générative. Pourquoi on dit générative ? C'est parce qu'à la demande de l'utilisateur, ces systèmes fabriquent, construisent des histoires, des textes, des images, des sons à la demande de l'utilisateur. Voilà la différence.
Vous avez dit, plus on invente, plus il faut encadrer. Est-ce qu'on n'a pas déjà trop inventé et que l'encadrement a un peu du mal à suivre ? Dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Alors c'est absolument en fait cette accélération qui peut expliquer la vitesse avec laquelle les réglementeurs se sont activés à mettre sur pied quelque chose avec un certain nombre de compromis utiles d'ailleurs pour le moment, qui laisse penser d'ailleurs que ces règles vont évoluer dans le temps puisque la technologie non seulement elle évolue dans ce domaine mais elle évolue très vite par rapport à tout ce qu'on a vu dans le passé, notamment grâce à la recherche mais aussi grâce à tout un monde entrepreneurial, de start-up, dans le monde entier d'ailleurs, pas seulement aux États-Unis. Donc plus l'innovation va avancer vite, là, et c'est le cas, plus il est utile de demander aux concepteurs, aux fabricants, aux gens qui opèrent, qui exploitent ces systèmes, de prendre des précautions et de faire attention à ce qu'ils font, pour autant qu'on puisse, avec l'IA et l'IA générative, comprendre comment ça fonctionne vraiment. Et c'est quand même un des problèmes aujourd'hui, qui est à risque, c'est que nul n'est sûr, et je pense que ce ne sera jamais le cas, des raisons du fonctionnement actuel de ces systèmes.
Donc. Bon, vos échos, en tout cas, tous les deux, pour le moment, sont positifs quant à cette loi qui donc classe les risques concernant les systèmes d'intelligence artificielle pour que les grands groupes d'Internet restent dans les clous de la législation en fonction de ces risques qui sont classés, je disais, de faibles à inacceptables. Sandro Gozzi, député européen, vous étiez au cœur de ce vote parce que France, Allemagne, Italie ont longtemps été contre ce texte. Est-ce que c'était votre cas ?
Écoutez, laissez-moi dire tout d'abord que je suis convaincu que l'intelligence artificielle soit la plus grande opportunité pour l'humanité dans notre époque. Donc j'ai une approche et une attitude extrêmement positive vis-à-vis de cette évolution technologique. Et je crois que cependant, elle soulève beaucoup de peurs, de craintes, et d'interrogation, notamment auprès de l'opinion publique en général. Et donc, la meilleure façon pour apaiser ces craintes, c'est développer un cadre législatif, réglementaire, qui se base autour de l'idée de transparence. Et c'est un peu ça les fils rouges que nous avons suivis. Pourquoi il y a eu des positions différentes entre certains États membres et les rapporteurs et certains parlementaires? Et quelle était ma position, c'est ça la question. La première raison, c'est que, vous l'avez rappelé, les conseils, les États membres, les gouvernements ont commencé à travailler sur cette loi cadre sur l'intelligence artificielle avant que ça éclate dans les débats la question de l'intelligence artificielle générative, la sortie des ChatGPT, etc. Les parlementaires ont travaillé dans une deuxième phase du moment où les débats avaient éclaté. Et donc, il est clair que, alors que les conseils, et notamment la France, avec aussi l'Allemagne et l'Italie, était axé beaucoup sur la question, il faut bien sûr des règles, mais des règles qui puissent laisser la plus grande liberté possible, acceptable à l'innovation, parce que nous devons à rattraper les retards par rapport aux Américains, par rapport aux Chinois, etc. L'approche des parlementaires, au départ, c'était très diminution des risques. Attention, il y a beaucoup de risques et nous devons nous protéger. Et donc, nous devons travailler, si vous voulez, la négociation, les derniers mois, les dernières semaines, avant les votes finaux, a été autour de cela. D'un côté, une approche, notamment française, aussi parce que l'intelligence artificielle en France, c'est le pays, la France est le pays qui est le plus avancé du point de vue de l'intelligence artificielle en Europe, dans l'Union européenne au moins. Il y a les Britanniques aussi qui font un bon travail. D'un côté, de l'autre côté, les parlementaires. Et finalement, on a trouvé une voie moyenne équilibrée à la fin. Je crois qu'elle est satisfaisante. Mais sans doute, les parlements au départ étaient un peu trop restrictifs. Et finalement, on a trouvé un bon équilibre entre la nécessité de réglementer, la nécessité d'éviter des risques inacceptables et la possibilité quand même de continuer à innover en Europe.
C'est pas un texte qui freine l'innovation, justement, parce que, par exemple, États-Unis, Chine, qui sont largement devant les Européens, n'ont pas ce genre de texte. On a dit que le texte du Parlement européen, c'était la première législation au monde dans le domaine.
C'est à moi que vous demandez ça ?
Tout à fait.
Bah écoutez, alors, sans doute, nous avons des approches, des méthodes différentes entre nous, les Américains et les Britanniques. Mais j'ai discuté beaucoup dans ces années, dans des visites régulières que j'ai faites et à New York aux Nations Unies, parce que les Nations Unies sont en train de travailler aussi sur un code de conduite là-dessus, et à Washington, et j'ai vu une évolution importante de la part des États-Unis. J'étais en novembre de l'année dernière à Washington, du moment où le président Biden a adopté un décret, on l'appelle executive order, hein, c'est l'histoire des décrets du président, dans lesquels il pose les mêmes questions que nous posons sur l'intelligence artificielle. Après, nous avons décidé d'avoir une approche générale horizontale. Les Américains vont développer une approche plus par secteur. Donc, vous voyez, c'est une culture aussi de la législation différente. Mais je crois que, sincèrement, on a évité de mettre des obstacles inacceptables. On a mis des paramètres qui sont très élevés. Et on a mis des obligations qui ne sont pas des interdictions, mais des obligations de transparence dans la nécessité de rassurer l'opinion publique, dans la nécessité aussi de mieux protéger les droits d'auteur, parce qu'il faut l'expliquer à ceux qui nous écoutent, ces machines, hein, ces algorithmes ont besoin de s'entraîner pour devenir plus intelligents, et ils s'entraînent en utilisant du matériel qui est souvent couvert par les droits d'auteur, et donc il faut aussi tenir compte de cela. Donc, je ne crois pas que c'est un règlement qui va nous poser des avantages compétitifs par rapport aux Américains. Au contraire, je crois que nous avons la possibilité d'avoir une influence positive. Je termine en vous répondant ce que mes collègues du Congrès américain m'ont dit. Alors, il y a 3 ans, ils m'ont demandé, mais est-ce que vous pensez vraiment que vous arriverez en Europe à légiférer sur l'intelligence artificielle, c'est impossible, on n'y croit pas. Il y a 2 ans, ils me disaient à quel point vous en êtes avec votre législation. La dernière fois, en novembre, ils m'ont dit, mais vous allez vraiment faire ça? Pour nous, c'est très important, parce que quand nous discutons avec les grosses entreprises, la Big Tech, les GAFAM, des nouvelles législations sur l'intelligence artificielle, ils nous disent, c'est absolument impossible. Si vous faites ça, vous allez nous bloquer. Après, vous le faites en Europe, eux, ils l'acceptent en Europe, et nous avons la possibilité de mieux discuter avec les dictateurs en disant, ben, ce n'est pas impossible, c'est une approche que vous ne partagez pas. Donc, vous voyez, je crois qu'on a la possibilité d'exercer aussi, à travers les dialogues, une influence peut-être positive, et au niveau des Nations Unies, et vis-à-vis des États-Unis.
Et d'ailleurs, en écho concernant les Nations Unies, je rappelle ce soir, pour la première fois, une résolution qui appelle à la mise en place de normes internationales dans le domaine de l'IA qui a été adoptée ce jeudi lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Nicolas Sabouré, donc là, finalement, l'idée selon laquelle l'Europe est derrière en intelligence artificielle parce qu'elle a des exigences de régulation, de normes, comme on le voit concernant Internet en général, à la différence des États-Unis et de la Chine, c'est faux. Finalement, comme nous dit Sandro Gozzi, les États-Unis ont également ces objectifs de régulation. Donc, il n'y a pas de lien directement. La régulation n'est clairement pas un frein à l'innovation.
Je ne pense pas complètement. Je pense qu'effectivement, il faut sortir un petit peu de ce misérabilisme européen de dire on est toujours en retard derrière les Américains, derrière les Chinois. Ce qui est certain, c'est que OpenAI n'aurait pas pu faire ce qu'ils ont fait en Europe parce que la RGPD leur interdisait de ramasser.
Alors,
tout.
Alors, OpenAI, c'est la société qui possède ChatGPT.
Voilà, la société qui possède ChatGPT.
Et RGPD, c'est le règlement de protection des données.
Exactement. N'aurait pas pu travailler comme ils l'ont fait parce que le règlement de protection des données ne leur permettait pas d'aller piller toutes les ressources qu'ils trouvaient sur Internet pour en faire un produit commercial. Enfin, c'est quand même.
Donc là, il y a quand même une norme supérieure, des normes supérieures en Europe de protection.
Donc, effectivement, on peut dire, ah, c'est dommage, si on n'avait pas eu ces normes, on aurait eu ChatGPT. Sauf qu'on constate aujourd'hui que, justement, en Europe, se développent des entreprises et des travaux dans des laboratoires pour développer des grands modèles de langage. Donc ChatGPT, tous ces outils d'IA générative sont basés sur ce qu'on appelle des grands modèles de langage, des grands modèles de langage entraînés sur des données qui ne sont pas protégées par le droit d'auteur. Et je pense que ça, c'est un progrès pour la société. Donc, je ne crois pas que les normes nous aient empêchés de faire de la recherche et de faire de l'innovation.
Mais par contre, l'intelligence artificielle ne peut pas prospérer dans l'Union européenne comme elle prospère aux États-Unis.
Alors, elle ne peut pas éclater comme elle a éclaté aux États-Unis. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas prospérer dans l'Union européenne. La preuve, elle le fait aujourd'hui. Mmh. On a énormément de laboratoires et d'entreprises qui développent des technologies en utilisant de l'intelligence artificielle. Mais avec une démarche qui est effectivement moins
et plus responsable.
Plus responsable.
Mais si on compare le chiffre d'affaires, il y a quand même un fossé entre États-Unis, Chine et Union européenne.
Mais je pense que le problème est là. C'est qu'on a tendance à dire que c'est la norme qui nous a empêchés de le faire. Ce n'est pas la norme, c'est la quantité d'investissement. Je pense que l'investissement n'a pas été tout à fait le même en Europe et aux États-Unis sur l'intelligence artificielle en général depuis ces 20 dernières années.
Georges Naon, on est au cœur de notre débat. Ce n'est pas la législation qui freine le développement de l'intelligence artificielle, c'est le manque d'investissement, clairement.
Il y a le manque d'investissement, il y a l'audace, et puis il y a le caractère préexistant de la puissance de la technologie américaine, puisque en fait, quand on regarde aujourd'hui qui est leader sur ce marché, ce sont tous des anciens, enfin, ce sont tous les acteurs big tech, donc les grandes de la tech, d'Internet. On retrouve tous les noms qu'on connaît quand on fait un moteur de recherche, quand on utilise des services Internet, on parle des mêmes géants. Et même donc, le créateur de ChatGPT OpenAI est quand même très lié entre ce qu'on appelle amicalement la mafia de la Silicon Valley. Donc, c'est tous des gens qui se connaissent déjà. D'ailleurs, ils sont très liés à Microsoft aussi, comme on le sait, hein, très largement. Donc, le tissu existant pour soutenir le développement rapide et massif avec d'énormes investissements qui, il faut le savoir, viennent quand même majoritairement, non pas du capital risque en ce moment, mais plutôt des géants de la tech. Ce sont les géants de la tech qui financent actuellement aux États-Unis le développement massif de l'IA génératif. On n'a rien d'équivalent en Europe.
Oui, donc la fracture est d'abord numérique.
Elle est d'abord numérique, industrielle, entreprise. Et puis, c'est ce qui me faisait dire tout à l'heure que c'est très bien qu'il y ait cette loi, et même maintenant d'ailleurs, c'est bien qu'elle arrive vite. Mais il faut comprendre que c'est quand même une réaction à caractère protectionniste du marché européen qui n'est pas prêt. Enfin, on a des bons cerveaux, des bons laboratoires de recherche, mais on n'a pas encore, à part deux sociétés très connues en Europe qui font vraiment de leur mieux et très bien. D'ailleurs, dont l'une d'entre elles en France est quand même largement financée par des capitaux américains, ce qui laisse penser quand même que c'est perméable, hein, et tant mieux d'ailleurs. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que la motivation principale, il me semble, des autorités européennes, c'était de trouver un cadre pour résister à l'éventuelle inondation par des nouveaux acteurs américains dans l'IA, qui seraient en gros les successeurs des big tech. Dans mon avis, il n'y aura pas de big IA, parce que justement, le marché originaux, je veux dire des big intelligence artificielle, différent des big tech, parce que ce sont les big tech qui tiennent le marché aujourd'hui. Et je pense que ce qu'on va voir, ce sont des acquisitions massives de la part de ces gens-là, discrètement, pour ne pas être mis en cause par les autorités de concurrence. Hein. Mais c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Hein. Toutes ces grandes sociétés ont investi massivement dans des startups, y compris d'ailleurs en Europe.
Mais ça veut dire que, régulation ou non, l'Union européenne est vouée à être distancée par les États-Unis dans ce domaine de l'intelligence artificielle ?
Alors, de façon générale, on l'a vu dans le passé, dans la tech numérique, de façon générale, et ça se poursuit puisque l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle manifestation très intéressante et du numérique en réalité. Hein. Mais la base est la même, et c'est pourquoi je crois que même si on peut tordre le nez en disant bah oui, c'est une réaction protectionniste, c'est quand même utile d'encadrer ce qui va se passer, notamment parce qu'on le fait déjà, on utilise des produits d'origine américaine, d'ores et déjà. Déjà, le consommateur européen se connecte à ChatGPT ou des choses équivalentes qui sont des choses américaines qui ne sont pas pour le moment réglementées comme le souhaitent les Européens en fait. Hein.
Réguler l'intelligence artificielle, est-ce limiter son développement? La question qu'on pose ce soir dans le débat du jour, après qu'une résolution, pour la première fois, appelant à la mise en place de normes internationales dans le domaine de l'IA, a été adoptée ce jeudi lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Mes trois invités, Georges Naon, que l'on entendait expert des technologies numériques, ancien directeur du Centre d'innovation d'Orange Silicon Valley à San Francisco, Nicolas Sabouret, directeur de la Graduate School Informatique et Sciences du Numérique à l'Université Paris-Saclay, enseignant à Centrale Supélec, et Sandro Gozzi, député européen Renew Europe, secrétaire général du Parti démocrate européen, qui réagit, parce qu'on en parle beaucoup évidemment de cette loi du Parlement européen qui a été votée la semaine dernière concernant l'intelligence artificielle et pour réguler l'intelligence artificielle, qui est une première législation au monde dans ce domaine. On a bien compris finalement qu'il y a deux vitesses, hein, entre l'Union européenne et par exemple les États-Unis et la Chine, qui sont leaders dans ce domaine, deux vitesses en raison d'exigences de régulation qui sont différentes. Mais Sandro Gozzi, vous qui êtes député européen, est-ce que ce deux vitesses risque de ralentir le développement, j'allais dire, de l'Union européenne concernant l'intelligence artificielle, mais surtout la capacité des États-Unis à investir en Europe parce qu'ils seront soumis à cette régulation qui n'est pas la même chez eux?
Alors, deux réponses, parce que c'est une double question que vous me posez à la lumière aussi du débat que nous avons fait jusqu'à maintenant. Sans doute, la véritable question, c'est les investissements. C'est une question maintenant beaucoup plus des finances, des financières, hein, que des règles. Je crois que là-dessus, sans doute, les Européens doivent faire beaucoup plus pour encourager, faciliter, accompagner les investissements privés et pour mettre aussi les ressources nécessaires au niveau public. Donc la transformation numérique déjà est au cœur, par exemple, du plan de relance européen. Elle doit être au cœur aussi du budget européen de la décennie devant nous. Donc, et à travers l'encouragement des investisseurs privés et à travers des investissements publics, sans doute... Allô?
Oui, on vous entend, ça a été légèrement coupé, mais si vous pouvez reprendre votre dernière phrase, on va suivre le fil de ce que vous étiez en train de nous dire. On a perdu Sandro Gozzi, en tout cas la ligne a été coupée. Nicolas Sabouret, on peut poursuivre sur cette difficulté. Est-ce que ça va être un frein, cette régulation? Alors, est-ce que ça va être un frein? On en a parlé, on a dit non, parce que tant que les entreprises européennes investissent, il n'y a pas de raison que la régulation soit un frein. Mais est-ce que le marché énorme créé par les États-Unis, la régulation va empêcher les entreprises américaines, Big Tech et compagnie d'intelligence artificielle, à se développer sur le marché européen parce que il y a ces objectifs de régulation qui ne sont pas les mêmes aux États-Unis?
Alors, en tout cas, si c'est l'objectif de la loi, je pense qu'en partie, les Américains vont se préoccuper de respecter la loi sur notre territoire. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça va peut-être freiner un tout petit peu le développement sauvage des usages de l'intelligence artificielle. Par ailleurs, comme l'ont dit M. Naon et M. Grossi, ce qui est important, ce n'est pas tant la régulation, c'est la capacité qu'on a d'investir. On ne fait pas tourner, on n'entraîne pas un modèle de langage à 175 milliards de paramètres sur un ordinateur dans son jardin. Pourquoi ce sont les GAFAM, comme l'a dit très justement M. Naon, pourquoi ce sont les GAFAM qui sont aujourd'hui les leaders sur le marché? Parce qu'ils ont les infrastructures, ils ont fait les investissements depuis 20 ans, pas juste cette année.
Et donc, ça rejoint la question que je posais, c'est est-ce que finalement l'Union européenne est vouée à être distancée parce qu'il y a trop de retard?
On n'est pas forcément voué à être distancé, mais c'est sûr qu'il va falloir investir. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas espérer qu'on va pouvoir tout faire juste avec des réglementations. Et il y a autre chose qu'il faut faire, c'est aussi investir dans la formation. C'est-à-dire que ces outils, il va falloir apprendre à les utiliser. Il ne s'agit pas juste de se dire on a des IA génératives, il faut apprendre à savoir ce qu'on peut faire avec les IA génératives. Et donc je pense qu'il y a une nécessité de la part des industriels d'investir plus massivement dans les technologies de l'IA en se disant c'est pas parce que c'est réglementé en Europe qu'on ne pourra pas faire des choses extraordinaires, mais il faut qu'on y aille et pas qu'on regarde les trains passer. Et ensuite, il faut que les gouvernements, puisqu'en Europe, ce sont plutôt les gouvernements qui s'occupent de la formation, les gouvernements investissent dans la formation des professionnels et des jeunes sur l'utilisation de ces technologies. Et je pense que, typiquement, des réflexes protecteurs comme « on va interdire ChatGPT à l'école », ce sont des mauvais réflexes.
Donc, en tout cas, en vous entendant, on comprend que la régulation n'empêche pas clairement le développement de l'intelligence artificielle. Et si l'Union européenne est distancée, c'est pour d'autres raisons. Mais Georges Naon, est-ce qu'on va toujours continuer sur cette régulation à avoir deux vitesses entre l'UE et États-Unis et Chine? Ou est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une harmonie internationale sur cette question-là?
Alors, comme les choses avancent, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a de vraies raisons et de motivations pour lesquelles les géants de la tech américaine, surtout, parce que le contexte chinois est un peu différent en matière de protectionnisme, ces Américains ont de vraies raisons professionnelles de défendre leur business actuel, c'est-à-dire les services du cloud, par exemple, du cloud computing, les réseaux sociaux, le moteur de recherche, toutes ces choses-là. Ils ont besoin absolument d'investir pour avancer très vite parce qu'ils sont en concurrence. Nous n'avons pas l'équivalent en Europe. Il n'y a pas de big tech comparable qui sente une urgence à développer, à investir des sommes considérables, non seulement pour faire leur propre développement, leur propre recherche, mais deuxièmement, pour acquérir et investir dans des sociétés qui se lancent, des startups, dont certaines sont en Europe d'ailleurs, hein, ils investissent aussi en Europe, le plus délicatement qu'ils puissent le faire pour ne pas attirer les foudres réglementaires. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, ça peut, pendant un moment encore, faire perdurer cet écart entre l'Europe et les États-Unis. Et l'autre chose qu'il faut quand même admettre, c'est que ces mesures dans la loi IA européenne, qui est plutôt faite pour les géants américains, donc pour limiter un peu une sorte d'approche anarchique du marché français sans règles éthiques, etc., puisse en fait être défavorable aux petits acteurs européens. Ça, c'est quand même un problème. C'est que, et d'ailleurs, ça a été évoqué notamment par la France et l'Allemagne, qui ont les deux de très bonnes start-up en intelligence artificielle et qui se sont comportés comme des Américains, de certaine manière, en disant « Attendez, vous n'allez pas freiner le développement de nos petites entreprises très brillantes qui passeront ou pas à l'échelle, qui seront plus ou moins, l'objet d'achat par d'autres entreprises, et notamment américaines. Donc, attention à ne pas trop réglementer. » Et on a bien vu qu'il y a eu un adoucissement après l'intervention de l'Allemagne et de la France, un adoucissement des réglementeurs européens pour, en fait, adoucir pour les nouveaux entrants et surtout les petits qui sont soutenus aujourd'hui que par de l'investissement de type capital risque ou des grandes entreprises de tech américaines. Il n'y a pas une entreprise du CAC 40 qui investit. D'ailleurs, l'équivalent aux États-Unis n'existe pas du tout. Donc aujourd'hui, ceux qui tiennent le jeu, ce sont les big tech américaines et bon, un petit peu chinoises. Et donc, on a le risque quand même, en voulant justement préserver le marché américain d'une invasion non réglementée des Américains, de gêner les petits acteurs.
Et nous reste moins d'une minute, on n'a même pas parlé du public, qui sont quand même les conséquences aussi qui vont subir ou profiter d'eux, cette intelligence artificielle. En tout cas, est-ce que le décalage de normes entre l'Union européenne et les autres pays, ça peut être préjudiciable pour ces internautes-là?
C'est, à mon sens, on n'a pas encore assez de recul, mais ça peut. Mais regardez comment ça s'est passé dans Internet. Internet a aussi porté le flanc à beaucoup de critiques sur des aspects éthiques, sur des questions de fake news, enfin de fausses informations, d'autorité. Et puis ça reste encore le cas aujourd'hui. Il y a encore plein de problèmes sur Internet aujourd'hui qui ne sont pas réglés, ni par la réglementation européenne, ni par la réglementation américaine. Ça va beaucoup mieux grâce aux lois américaines qui ont d'ailleurs été adoptées en dehors de l'Europe, hein, la fameuse RGPD, là, hein, la réglementation de protection des données. Donc ça va beaucoup mieux déjà grâce à ça. Mais ce n'est pas réglé non plus sur Internet.
En tout cas, pour répondre à la question, non, réguler l'intelligence artificielle n'est pas limiter son développement. Pour promouvoir le développement de l'intelligence artificielle, il faut investir. Je reprends votre mot, vos mots à vous trois. Merci beaucoup. Désolé, Sandro Gozzi, la ligne a été rétablie. On n'a pas pu vous reprendre. Merci beaucoup, député européen Renew Europe. Georges Naon, merci. Expert des technologies numériques. Et merci, Nicolas Sabouret, directeur de la Graduate School Informatique et Sciences du Numérique.
Merci.